Nous sommes aujourd'hui le lundi 10 décembre 2012 oui. Et nous rencontrons Madame Madeleine Clerval évoquer ses souvenirs de la Deuxième Guerre mondiale à la suite de son époux. Alors Madame Clerval, vous étiez bien jeune au début de la guerre.
Eh bien j'avais 14 ans, on m'a mis en 39, j'ai été en pension. Parce que dans nos villages, on était des... Quand ceux qui pouvaient, mes grands-mères voulaient que je sois... On dégrossissait les filles des villages. Et on m'avait mis pour me dégrossir dans une pension à Chaumont. Et bon, on m'a mis dans un cours pour apprendre la cuisine, la couture, tout ça. Bon, voilà.
Oui. Alors, à Chaumont, Chaumont sur...
52, Haute-Marne, c'est le chef.
Chaumont sur Marne.
Chaumont.
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 D'accord.
Oui, c'est le chef-lieu, c'est le chef-lieu de la Haute-Marne.
Et donc, vous avez eu des cours.
Alors, mais pas longtemps. Ça n'a pas duré longtemps parce que la guerre a éclaté.
Oui.
Papa est parti sur la ligne Maginot.
Bien sûr.
Ce qui m'a valu une engueulade de la supérieure, la chère bonne sœur, qui m'a appelé un jour parce que papa m'a écrit à la pension. Et nos lettres étaient lues. Et il me met, vulgairement, j'emploie ces mots, c'était pas... et persuade ta maman de partir, faites vos bagages, la ligne Maginot, c'est de la merde. Foutez le camp jusqu'à Châteauneuf-de-Galore, Châteauneuf-sur-Cher, où on avait un vague cousin qui était médecin. Et il ajoutait, si Châteauneuf est encore assez loin.
Ah, ça, donc il avait tout papa. Compris.
Oui, mais la bonne sœur, elle m'a appelée, elle m'a dit « Votre père devrait être passé par les armes, c'est un défaitiste, voilà. » Alors moi, je suis rentrée à la maison. Voilà, mon année de pension a été écourtée. J'ai quand même pu faire des belles choses, broder des draps, tout ça.
Mais vous n'êtes pas partie, vous n'avez pas suivi la...
Alors, ben ça, alors, donc 39-40... Le printemps 40, l'été 40, les Allemands avançaient. On n'avait pas l'intention de partir. Et on était quand même privilégiés parce que papa était un bricoleur. On avait quand même une petite 5 chevaux Peugeot et une petite Oshkosh que papa avait bricolée. Et mon frère, qui avait mon âge, on était jumeaux, il savait conduire. Donc, voilà, il a pu aller m'emmener en forêt, il a pu. Et un jour, j'étais en train... Là, on avait une petite rivière qui passait derrière notre jardin. Et papa m'avait fait un petit lavoir pour que j'aille pas au lavoir municipal entendre les ragots des dames. Et j'étais en train de rincer une lessive. Et il y avait un soldat français de l'autre côté de la berge de la rivière qui lavait ses chaussettes, je pense. Et... On entend un avion qui pique. Ce garçon me crie « Foutez-vous dans l'eau !» Heureusement que je ne me suis pas foutu dans l'eau. Lui, il s'est foutu dans l'eau. Et il est mort. Il a été tué devant moi. Donc, je suis rentrée dans un état pas possible. Et là, maman me voyant comme ça, et on était mitraillés tout le temps au village, tout le temps, tout le temps. On ne se rendait pas compte si c'était les Allemands, si c'était les Anglais, on ne savait pas trop. Et maman me dit « Bon, on va s'en aller. » Ton frère sait conduire. Maman apprenait à conduire avec un soldat depuis une semaine parce que les gendarmes avaient dit à maman, votre fils est trop jeune pour conduire, il n'a pas de permis, il peut avoir des ennuis. Donc, je nous vois encore partir. Nous, on n'avait rien dans la voiture, mon frère et moi. On n'avait rien. Maman avait chargé des vêtements, un peu de ravitaillement dans la sienne.
Ah, oui,
nous voilà partis et on passe... en Côte d'Or, dans la ferme, et il était parti. Il restait sur la table des résidus de repas. Mon frère a eu l'idée de prendre une bouteille de gnôl qui était sur la table et un kilo de sucre. C'est tout ce qu'on avait à manger dans notre voiture. Ils étaient partis, donc rejoindre aussi le fameux docteur qui était leur cousin aussi. Et on devait se retrouver là-bas, à Châteauneuf-sur-Cher. Bon, alors on a roulé, on a couché.
Les deux voitures se suivaient, quoi.
Voilà. Ouais. On arrive à Montbard, bombardement de Montbard, brouillard artificiel.
Ah, oui.
Plus de maman, plus de petit frère. Elle était avec mon petit frère qui avait 5 ans, qui avait fait la comédie avant, il voulait monter avec mon frère. Heureusement que maman n'a pas cédé. Parce qu'avec mon frère jumeau, on a pu se débrouiller, mais avec le petit, je ne sais pas ce qu'il aurait fait.
Oui, bien sûr. Donc vous vous êtes trouvés séparés.
Séparés. Et on a été séparés 6 mois. On a perdu maman, on avait perdu papa, on n'avait plus de...
Vous étiez vous et votre frère?
Et mon frère.
Et vous aviez 15 ans?
On avait 15 ans. Ah oui.
C'était votre frère jumeau?
Oui, c'était mon frère jumeau. On s'est arrêté dans un village parce qu'on a voulu passer la Loire. Et il y avait un soldat qui habitait en face de chez nous, avec ses copains. Il avait, en partant, il a mis un mot dans la poche de maman. Il était clairement ferrant, ce garçon-là. Et il dit à maman, tiens, quelquefois que vous ayez besoin, voilà l'adresse de ma femme, elle vous accueillera bien. Mais maman avait ce bout de papier, donc nous on pensait Clermont-Ferrand, on pensait Châteauneuf-sur-Cher, mais il fallait passer la Loire.
Oui, bien sûr.
Donc on dit on va passer la Loire. Mais on est arrivé à Gien, le pont de Gien a sauté devant nous, il y avait 3000 morts là-dedans. Nous on n'a rien eu, et on se dit qu'est-ce qu'on fait? Mon frère dit bon, on retourne. On s'en retourne. On s'arrêtait là où il y avait des préfectures, des sous-préfectures pour dire la perte de maman.
Oui.
Pendant ce temps-là, maman, elle était à Saulieu. Elle était folle de nous avoir perdu.
Oh, bien sûr.
Folle.
Oh, oui.
Elle a vu un soldat à Saulieu, un soldat tout seul sur un trottoir. Elle lui dit, qu'est-ce que vous faites là? Et le soldat a dit, j'ai perdu mon régiment, je ne sais pas ce que je fais là, j'ai perdu mon régiment. Elle lui dit, prenez ma voiture. Il a vu qu'elle était perturbée, le petit frère pleurait bien sûr. Et puis, il lui dit, mais pour aller où? Elle lui sort le papier du soldat du village, Clermont-Ferrand. Mais eux, ils ont pu passer avant nous, avant que le pont de Gien. Ils sont passés au pont de Gien.
Avec votre maman, alors le soldat
maman
est parti avec votre
oui,
maman.
Oui, voilà. D'accord. Et il l'a emmené dans un ça s'appelait, je ne sais plus comment, à côté de Clermont, chez la dame, qui les a hébergés, maman et le petit frère. Et nous, le frangin et moi, on se dit qu'est-ce qu'on fait, on est retourné. Mais on n'avait plus de carburant. On s'est arrêté dans un village qui s'appelait Carré-les-Tombes, dans l'Yonne. Et là, on n'avait plus de carburant, on n'avait plus à manger. On était dans un grenier, on s'est planqué dans un grenier. Mon frère me disait des choses affreuses. Oui, les Allemands, ils violent les filles, ils détraquent les voitures. Il avait enlevé les vis platinées de la voiture. Moi, il me planquait dans le foin. Et on était avec une famille des épiciers qui avaient des sacs de pastilles de menthe, des sacs de riz. Il a demandé, moi je tenais plus debout, ça faisait 3-4 jours qu'on mangeait rien. Et il a demandé, il n'a jamais voulu, il nous a fait payer un verre d'eau 40 sous. Mon frère avait toujours dit, je les reconnaîtrai, j'irai les remercier, il n'y a jamais été, mais enfin. Et comme ils ont refusé, mon frère dans l'Est, on parlait plus ou moins allemand, tous un peu, il a dit à ces gens-là, puisque vous ne voulez rien nous donner, moi je vais les trouver les Boches. Il a été trouvé, les Allemands. Il a discuté avec eux, il est revenu avec 2 caisses, une caisse de biscuits de soldats et une autre des boîtes de singes, les boîtes de...
Oui, oui, de corned beef.
Voilà. Et puis dans la nuit, une tape sur le dos de mon frère, dans le foin, un officier allemand, qui dit à mon frère lui avait un peu parlé de où on crêchait, où on était, Châtillon-sur-Seine, ça va monsieur? Mon frère dit oui, mais... pas de carburant, rien. Il est venu mettre de l'essence dans la voiture. C'était la division Rommel. On est parti avec la division Rommel, comme 2 pauvres gamins, avec la petite de chevaux que mon père appelait la petite chiotte. Et puis, on s'est arrêté à Coulmiers-le-Sec.
Coulmiers-le-Sec.
De côté de la ferme.
Pas loin de la ferme.
De Grand Côte d'Or. Oui.
Et là, on a vu Rommel, et on a vu le village de Coulmiers-le-Sec rasé, le clocher dégringolé, tout, on connaissait des gens là-dedans. Nous. Et j'ai dit, pourquoi ce village? Et ils nous ont répondu, parce qu'il y a des Sénégalais, des soldats sénégalais. Et puis là, Rommel a dit, maintenant terminé, au revoir, ils sont partis, ils nous ont laissés là. Donc, on s'est rapproché de la ferme et on a été à un village à côté chez des gens qu'on connaissait. Mon frère m'a laissé là, il me dit, je vais aller à la ferme, ça s'appelait la ferme du Loge, je vais aller voir ce qui s'y passe. Alors il a été voir ce qui se passe à la ferme. Il y avait plein de réfugiés, il y avait plein de gens qui lui ont demandé « Qu'est-ce que tu veux, mon gamin ?» Je veux que le patron, c'était pas vrai. Il a dit « Le patron arrive à 5 minutes derrière moi, il faut des guerres pires. »
La ferme du comte de Paris.
Oui. Oui. Donc on a été s'installer là, à la ferme. Mais on était tout seul. Plus de personnel, plus de... Les oncles et les tantes étaient partis. Il y a un voisin qui est venu qui nous a dit « Ah, ils sont partis pour... Ils sont partis pour embarquer en Amérique. Le père, il a dit « Je ne vais pas les voir ici, en Amérique, s'il faut. »
Je peux pas faire des... Excusez-moi.
Et alors ? On est resté à la ferme, tous les deux. On a rattroupé le troupeau de moutons. On a rattroupé les 25 vaches. Pas d'électricité.
Attendez, vous avez...
On a réuni les vaches, oui. Les moutons. On était vraiment tout seuls.
Ils ont fait les fermiers.
Voilà, on a fait les fermiers. Oui. On était épuisés. On ne s'est occupé que des animaux. Les Allemands sont venus nous trouver, les SS, à la ferme. Moi, je ne me rendais pas compte tellement que c'était des SS, mais enfin, ils nous ont mis en joue dans un coin de la salle à manger parce qu'ils ont trouvé des fusils de chasse, des employés, ils ont trouvé beaucoup de tracteurs. Des Belges agriculteurs avaient laissé leurs tracteurs.
Il n'y en avait pas. Tracteur,
hein, c'était pas à eux, mais ils ont trouvé qu'on était des gros capitalistes. Et puis voilà que mon frère avait voulu sauver la carabine de papa. Il avait fait un plancher tout neuf dans la petite 5 chevaux. Et puis bon, ils ont démoli ça, ils ont trouvé la carabine avec quelques bricoles avec, quoi. Donc ils nous ont mis en joue là. Et une chance, il y a un des officiers qui était là, il tirait des tiroirs partout, il jetait tout. Et il y en a un gros officier là qui a trouvé la photo d'André Voinchet, le deuxième de la famille, qui avait 2 ans, une photo, il avait 2 ans. Il a déchiré cette photo, il devait avoir un gamin, ouais, j'ai pensé. Il l'a piétiné, il a fait aux autres houses, et tout le monde est parti.
Ah oui.
Le lendemain,
quoi, la vie tient à très peu de choses.
Ah oui, on a eu peur ce jour-là. Ouais. Et moi, je pleurais. Mon frère, il me faisait « Ferme-la, fais tes prières et arrête de chialer. » Bon, voilà. Le lendemain, les SS sont venus. Mais pas... Ils nous ont fait tuer... Ils revenaient tous les 2-3 jours pour nous faire tuer les moutons. Mais ils nous ont toujours payé. Hein. On avait une boîte, je vois encore les marques. En fin de compte, quand mon oncle est rentré, 6 semaines après, il manquait un mouton dans le troupeau. Ouais. Mais moi, j'avais du mal, il fallait traire à la main les 25 vaches et puis quoi faire du lait. Alors j'avais trouvé des grandes bassines où on baignait les enfants. Je mettais le lait là-dedans, je levais la crème, on n'avait pas de baratte, il y avait un morceau de baratte électrique. Alors, dans une ferme à côté, on m'avait prêté une baratte en bois, comme dans le temps. Mais je faisais du beurre et on allait dans la petite ville à côté, à Châtillon-sur-Seine, on allait porter aux gens à manger.
Alors, gratuitement
ou... Ah ben oui, mais les gens les entendaient encore gémir dans les caves. Châtillon-sur-Seine a été bombardé à 80% aussi. Hein. Et on connaissait tout le monde dans cette petite ville. Bon, on allait porter ça, et puis il y avait des Sénégalais quand on est arrivé à la ferme, il y avait des Sénégalais dans la ferme. Donc, vu ce qu'ils avaient fait...
Les Ségalais qui étaient dans la ligne Maginot, qui...
Voilà, oui.
Les Noirs.
Donc, quand il y a eu la retraite, voilà. Ils allaient...
Et vu ce qu'on avait compris au village qu'ils avaient bombardé à cause de l'armée sénégalaise, on s'est dit, il ne faut pas rester là. On connaissait bien la région, on les a emmenés dans des grottes, à 2 kilomètres de la ferme, et là, on leur portait à manger tous les jours. Puis un jour, on est arrivé, il y avait le manger, était resté, il n'y avait plus de Sénégalais, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Je ne sais pas s'ils ont été arrêtés, je ne sais pas, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus.
Ce qui est extraordinaire, c'est qu'à l'époque, vous étiez des adolescents.
Ben 15 ans. C'est ça que les petits-enfants disaient, on n'aurait pas su, mais si, mais... Et puis j'avais déjà traité les vaches à la ferme. J'étais déjà...
C'est de l'héroïsme du quotidien, mais
ben
c'est...
Puis on mangeait bien. Ouais. Mais je pleurais tous les jours. Je me souviens, j'avais rien à mettre, je sortais de la pension. Ouais. Et j'avais été à Châtillon quand ils ont sorti les gens des caves. Ils ont commencé, les commerçants commençaient de sortir leurs marchandises, ce qui restait. Et j'avais trouvé un petit imperméable verre. Mon frère m'a fait une comédie, t'as acheté du verre. Mais je dis, j'ai acheté ce qu'il y avait là. Ils sont tous morts dans la famille. On n'a plus de parents, les voisins, les fermiers. Ils reviendront jamais s'ils sont en Amérique. Et tu te payes le culot d'acheter un manteau vert, j'avais rien à mettre dessus. Il fallait bien que j'achète quelque chose. Mais enfin, bon, ils sont rentrés au bout de 6 semaines.
Hein? Les fermiers,
Les fermiers sont rentrés.
Qui s'appelaient les
Voinchers.
Voinchers.
V-O-I-N.
Donc c'est votre oncle, il n'était pas parti en Amérique.
Non, ils n'ont pas pu. Ils sont arrivés à Bordeaux, ils n'embarquaient plus.
Ah, voilà. Ils avaient. Et en fait, voilà.
Oui. Ils sont arrivés à Bordeaux pour embarquer pour les États-Unis et on n'embarquait plus, c'était fini. Ils n'ont pas pu partir, c'était notre chance. Alors quand ils sont arrivés, c'est curieux, ils sont arrivés à la ferme le jour où l'électricité est revenue. C'est drôle, il y a des... Mais quand ils sont arrivés, il y avait mon frère qui gardait les moutons et puis il faisait frais et les Allemands avaient laissé à la ferme au bout d'un couloir un monceau d'imperméables, chamarré, vert. Il en mettait un comme ça pour aller garder les moutons, ça le protégeait du frais. Et mon oncle, c'est la servante de la ferme, ils avaient une employée qui était de mon village, que je connaissais bien. Elle voit cet Allemand qui gardait les moutons. Oh, elle dit à mon oncle, monsieur Voinchet, il y a un grand boche qui garde vos moutons. Oh, ben il a retourné la voiture. Alors, il y avait quand même un 10e enfant. Hein. Alors, ma tante, elle lui dit, enfin, allons voir ce qui s'y passe quand même, heureusement. Alors, notre premier mot, et maman, avez-vous retrouvé maman?
Eh bien, non.
Eh bien, non. Personne ne savait où était maman. Là, l'âme dans tout ce que j'ai ramassé comme souvenir, c'est les lettres et toutes ces familles, parce qu'il y avait la zone occupée, bon, mes grands-parents y étaient restés, il y avait la zone libre, donc la Côte d'Or était en zone, la zone occupée, ils étaient en zone occupée, et mes parents étaient en zone libre. Et donc
et
maman,
c'était où vos parents?
Alors maman était donc restée à Clermont-Ferrand avec le petit frère à côté de Clermont. Et puis mon père, alors ils ont eu la Croix de Paris, le journal La Croix de Paris paraissait en jaune libre.
Oui.
Et papa qui avait été, on avait vu un employé d'ailleurs, l'employé de la ferme qui était passé, qui nous avait dit j'ai vu votre papa, il est prisonnier. Il se rasait sur le capot de la voiture, une voiture allemande, et il a dit, je suis cuit, mais pas pour longtemps. Si tu les vois, dis-leur que tu m'as vu. Bon.
Et papa, il l'avait vu où?
Ben, il l'avait vu en zone libre.
Oui.
Et puis l'employé s'était sauvé, ce qu'a fait papa. Mais papa s'est réfugié dans un camp en Corrèze, à Cornille, le camp des isolés. Et il avait fait mettre dans la Croix de Paris, Jean Touvenin, je m'appelais Touvenin, se trouve au camp des isolés à Cornille, en Corrèze. Mon petit frère servait la messe au curé du patelin là. Et un jour, le curé lui dit, comment qu'il s'appelle ton père? Ben, il s'appelle Jean Touvenin. Et ben, il lui montre, il avait découpé ça, il s'en doutait que c'était ça. Donc, papa était retrouvé. Maman lui a envoyé un télégramme que j'ai gardé. Je suis ici avec Pierre. Et papa lui a renvoyé les deux grands. Les deux grands ne savaient pas où ils étaient. Ah,
donc c'est votre petit frère qui a vu le message en allant chez le curé, qui a dit à votre mère que votre père
était à Cornille.
Donc la famille s'était réunifiée.
Alors, il y avait déjà, mais on ne savait pas où on était, nous.
Oui.
Et bon, c'est toute une famille. Le frère et maman étaient mariés avec une fille du Creusot, donc de la zone libre. Et ces gens-là, ils ont été formidables. Ils ont accueilli mes parents, ils ont fait des démarches, ils ont écrit partout. On a retrouvé maman au mois de janvier suivant. Et papa avait trouvé du travail là-bas, mais il est revenu aussi. Mais mon frère avait quitté la ferme, puis il n'aimait pas la ferme, mon frère. Un matin, j'ai trouvé un mot sur la table de ma chambre, ras-le-bol de la culture, je vais voir ce qui se passe au village. Et il a embarqué la jeune fille qui servait à la ferme et qui était de notre village. Ils ont volé les deux vélos de la ferme, ils sont partis. Mais alors eux, ils ont rencontré les Allemands toujours en Côte d'Or. Il a fait 10 km.
Jusqu'à la ville de Châtillon.
Et il y a un camion allemand qui s'arrête et puis qui leur dit: qu'est-ce que vous faites là? Alors mon frère lui a dit: on a perdu nos parents, on voudrait retrouver notre village, c'est en Haute-Marne, c'est là. Alors ils ont regardé sur la carte, ils ont monté les vélos des deux gamins.
Et nous aussi, bon ben.
Nous, alors eux aussi, ils ont été jusqu'à à côté d'Andelot, donc à 4 km du village. Alors il dit: Andelot, ça va? Ils étaient heureux, les gamins, donc ils sont repartis en vélo au village. Et mon frère s'est occupé un peu de la petite série, à remettre en route, et puis des grands-parents qui se demandaient bien aussi où on était.
Oui. Et oui, bien sûr.
Ben oui, oui. Moi, bon, c'est ça ma guerre, hein. Moi, c'est pas...
Ah ben, écoutez, voilà.
C'est ça ma guerre.
C'est très intéressant parce que ça montre en fait les épisodes de
mais
complètement
extraordinaires. Je pense souvent à l'exode. L'exode, on a vu, vous parliez des femmes. Moi, j'ai vu une femme accoucher sur le toit d'un wagon détruit par les bombardements. Et puis on était parti, il y avait un vieux couple, un vieux couple qu'on avait doublé avec notre voiture, on était encore en Haute-Marne. Lui, il avait son smoking de papillon. Ils avaient mis leur volaille, ils avaient fait des cages en grillage qu'ils avaient installées sous un chariot avec leur cheval. Et les volailles étaient là. Eh bien, en revenant, on les a vus morts tous les deux. Les volailles étaient vivantes encore, on les a retrouvées morts. Oui, ils avaient leur cage, ils tenaient son cheval et la cage à oiseaux qui tenait de l'autre main.
Et ils sont morts comment?
Oh ben, pendant le bombardement, pendant... Ça mitraillait un peu partout, hein.
Et c'était où, ça?
C'était dans l'Yonne. Oui.
Quand vous remontiez après avec les Allemands.
Voilà, quand on montait avec les Allemands, oui.
Et vous avez vu personnellement Rommel?
Oui.
Donc vous l'avez...
Oui.
C'est Rommel qui vous a pris en charge, qui
ben
vous a...
Ben voilà, oui. C'est curieux quand même.
Et comment vous est-il apparu? Quel souvenir gardez-vous de Rommel?
Comme un militaire comme les autres.
Ah oui, il n'avait pas fait...
Pas de...
Il n'était pas connu.
Non.
Et vous avez su que c'était Rommel?
Ah ben il nous a dit, Mon frère parlait pas mal allemand.
Oui. Bien sûr.
Ah oui, parce que c'était encore 40. En fait, tout ce que vous avez vécu comme exode, c'est dû au fait
1940.
Que vous étiez près du front,
voilà,
près de
ça.
La frontière.
Oui.
Donc, votre village était directement concerné.
Mais oui. Mon grand-père, il n'a pas bougé. Il a aidé les gens de son village à partir, mais lui, il n'a pas bougé. Il avait remis en route, on avait une chambre à four, il avait un four à pain, il avait remis en état son four à pain, il a fait le pain pendant je ne sais pas combien de temps pour tout le village. Oui.
À
Imberville.
Mmh. Mais donc tout ce que vous venez de nous raconter, ça s'est passé été et automne.
Juin, on est parti le 11 juin 1940, on a quitté le village.
Ouais.
Et alors on a pris l'armistice, c'est vraiment, je pourrais en avoir honte, mais non, on était à côté, pas loin de Gien, quand on a pris l'armistice, mais nous... On était presque contents parce qu'on se disait c'est fini pour nous, tout
sûr.
Ça c'était...
Pourquoi avoir honte?
Ben parce que ben, on ne savait pas ce qui allait se passer après.
Bien sûr, mais je comprends.
Alors
bien
lui se préparait à partir en Angleterre, moi je disais...
Parce que vous vous disiez que la guerre était finie.
Oui.
Bien sûr. Et donc, votre famille a été réunie à quel moment?
Alors, on a été réunis au mois de janvier 41. Voilà. J'ai vu maman sur le quai de Châtillon-sur-Seine, j'ai été la chercher, je n'ai pas reconnu maman, qui était très brune, elle était toute blanche.
Ah.
Eh bien oui, mais elle a retrouvé ses cheveux bruns après.
Ah bon?
Ça, c'est étonnant. Hein.
Ah
oui. Oui.
C'est la paire, en fait.
Ah,
la
paire,
les chagrins, les désespoirs, et lui ont fait changer la couleur. C'est-à-dire...
Et votre petit frère avait...
Le petit frère, ben, ma foi, il était tout content de nous retrouver, mais il se plaisait bien à Clermont-Ferrand, il n'a pas trop souffert, lui. Ouais.
Et votre papa vous a rejoint?
Alors, papa nous a rejoint avec maman. Ben, ils ont rejoint la zone. Ils ont eu du mal de revenir parce que c'était la zone interdite. Ils sont passés par des passeurs.
Ils avaient des papiers spéciaux pour
faire. Ils avaient des papiers spéciaux. Moi, j'en ai fait. Je fais la signature de mon grand-père souvent parce que la grand-mère maternelle, elle habitait Chaumont. Elle était âgée. J'allais la soigner souvent, mais j'avais pas le droit de passer. Alors, je me faisais des Ausweis à la mairie d'Imberville. Avec la signature de mon grand-père. Quand je vois cette signature, je l'ai faite tellement souvent, cette signature.
Et alors, zone interdite, parce que près de la frontière.
Parce que près de la frontière,
il y avait une zone, les Allemands considéraient que c'était l'Allemagne.
Ah oui.
Voilà. Parce qu'ils voulaient récupérer toutes ces régions.
Ils pensaient récupérer cette zone-là.
Ben oui.
Donc, c'était zone interdite. Il y avait une zone libre, une zone occupée et une zone interdite.
Donc, ça, c'était en 40. Votre frère, il avait 16 ans.
Voilà.
Et ils l'ont pas obligé après à entrer dans l'armée allemande.
Non, rien du tout. On n'a rien eu du tout. On a caché beaucoup de résistants, des gens qui sont venus travailler dans les forêts avec papa, ses copains, tout ça, tous ses copains. On en a connu des André, c'était la mode du monde.
Oui,
du nom, André.
Ah oui, beaucoup. Ouais. Géréguin.
André Géréguin, André Simoneau. Ouais. Oui. Bon, enfin, ça n'est pas mal tiré quand même.
Pardon ?
Ça n'est pas mal tiré quand même.
Et comment est-ce que vous avez, vous, en tant que jeune fille, ensuite jeune femme, vécu toute cette période de la guerre ?
Je travaillais beaucoup. Les gens du village se moquaient de moi parce que je cultivais partout. Comme on n'était pas agriculteur, on n'avait pas. On est rentré au village, on n'avait plus rien à manger. Je me souviens qu'il y avait le vicomte de Saint-Exupéry, le cousin d'Antoine, qui venait avec une petite valise sur son vélo. Il avait 5-6 pommes de terre, un rutabaga, il nous déposait ça. On n'avait rien à manger quand on est arrivé. Mais moi, je cultivais partout. Même les bords de route, je mettais des haricots, je mettais tout. Alors les gens disaient, si elle reste encore longtemps au village, il n'y aura pas un mètre carré sans culture, sans légumes.
À votre âge, vous saviez déjà faire tout ça?
Oui. J'en mettais partout, des pommes de terre, des haricots. Puis je travaillais beaucoup dans les fermes aussi.
C'est-à-dire, vous...
J'allais traire les vaches, j'allais faire la fenaison le dimanche, j'allais ramasser le foin, oui.
Et vous étiez payé pour ça?
Pas payé, on me donnait un peu à manger, mais pas beaucoup, oh là là. Je me souviens, on avait surtout un couple de riches agriculteurs, ils étaient riches, ceux-là. Ah, c'était... J'avais été leur demander des pommes de terre quand on est rentré. Ah, ben on n'en a déjà pas pour nous, pas assez, pas... Et le jour du 14 juillet, je les ai vus jeter dans la rivière derrière chez nous les pommes de terre qu'ils n'avaient pas utilisées.
Vous les avez récupérées?
Ben, j'en ai récupéré, mais j'étais surtout révoltée.
Ah oui, ben, bien sûr.
Oui, ils n'étaient pas gentils.
Parce qu'ils jetaient
le reste des pommes de terre. Bon, c'est sûr qu'elles étaient.
Il y avait eu la même chose.
Et pour le lait, il y avait l'hiver suivant, avait été très dur. Et le laitier passait, ramassait les gras, allait en laiterie et on nous donnait du lait crémé. J'avais droit à 1 demi-litre chacun de lait crémé parce qu'on était adolescents. On avait droit à 1 demi-litre, mon petit frère n'avait droit qu'à 1/4. Bon, ça ne fait rien. Et un matin, il y avait eu tellement de neige, tellement de glace, c'est froid ces pays-là. Le laitier n'avait pas pu passer. Donc mon grand-père a fait passer l'appariteur en demandant au cultivateur de donner du lait complet aux gens qui allaient chercher leur lait. J'ai été chercher mon lait, c'était un dimanche matin. J'étais méchante, vraiment. Et elle me dit, mais il n'est pas question, qu'est-ce que tu veux? Nous perdons 2 sous par litre si on te donne ce lait-là. Je suis rentrée chez nous, c'était un dimanche. C'est pas gentil parce que j'ai été à la messe quand même. Mais la petite jeune fille qui avait à peu près mon âge, elle avait un beau manteau de fourrure. J'ai regardé mes frères, j'ai regardé les jeunes qui allaient à la messe aussi. Et puis j'y allais, on y va. On a été flanqué une bonne raclée. On a été vider les bidons de lait dans la rivière, ce qui était une grave erreur aussi de notre part, mais enfin. On a flanqué une raclée à Irène, elle s'appelait Irène. On lui a esquinté son manteau, puis on lui a dit, il y en a des pièces de 2 sous là-dedans, hein, dans ton manteau. Voilà ce qu'on fait quand on a 16 ans et que...
Oh, c'était une révolte, face à l'injustice.
Et on sortait de la messe.
Est-ce que vous avez côtoyé Irène après?
Oh, bah oui, on sait, oui.
Vous avez oublié.
Oui. Ah oui, mais c'était dur quand même.
Oui.
Eux, ils faisaient du marché noir, ils donnaient un jambon, ils avaient un costume, ils avaient, oui. Nous, on n'avait rien à...
Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, c'était révoltant. Hein.
Oui, et puis comme je ne mangeais pas beaucoup, j'étais tombée malade, je travaillais dur, j'étais tombée malade. Et ma grand-mère avait entendu la voix, la maman d'Irène qui disait « Oh, ben la pauvre Madeleine, ça ne mange rien là-dedans. Moi, je leur fais des omelettes avec plein de crème. » Et puis, elle avait entendu ça.
Ils ne se rendaient pas compte.
Non, ils ne se rendaient pas compte. Hein.
Mais les gens ne se rendent pas compte.
Hein. Non, non, non.
Ils vivent à côté.
Mais bon, mais c'était une époque, hein, aussi. Je crois que maintenant, on ne laisse pas les gens comme ça. Hein.
Bien sûr, mais là, tout était un peu désorganisé.
Tout, bon. Oui, oui.
Tout.
Oui, même dans nos têtes. Hein.
Même oui, dans oui, nos bien têtes. Sûr, ouais. Bien sûr. Et donc, à la fin de la guerre, vous aviez 20 ans.
Je me suis mariée, j'avais 21 ans. J'ai attendu ma majorité parce que mon papa, il ne voulait pas. Il fallait attendre sa majorité, c'était 21 ans. Oui. Puis on est parti sans rien, avec une paire de chaussures pour deux, avec on n'avait vraiment rien. Hein. Oui. Il y a ma grand-mère qui m'a mis un billet de 5 francs. Je ne sais pas ce que ça peut représenter aujourd'hui, dans ma poche. Elle m'a fait dire encore un gros mensonge parce que mon frère jumeau s'est marié l'année d'après. Elle me dit, dis donc, quand tu t'es marié, c'est 5 francs ou 10 francs que je t'ai donné? Je lui dis, c'est 10 francs. 5 francs, elle a eu 10 francs.
Bon, c'était un mensonge.
C'est sympathique.
Donc,
mais les Allemands, bon, dans le village, on n'avait pas le droit de leur parler. Je me souviens, il y en avait un.
Je vous était... du thé.
Attends. On peut vous donner un thé?
Ah, bah,
vous voulez bien un thé?
Volontiers.
Merci beaucoup.
Faire, mais je vais le faire.
C'est vous qui avez interviewé.
Et maman nous dit, il ne faut pas leur parler, il ne faut pas leur répondre. Il y en a un jour, il passe vers moi, puis il me côtoie un peu de près, puis il me dit, mademoiselle Imberville, pas bon du tout, pas bon du tout, pas parler à nous. Mademoiselle Chalvraine, le village à côté, dire à moi, petit con, je ne sais pas s'il a appris après ce que ça voulait dire, petit con.
Il considérait que c'était gentil.
Mais oui, il n'avait pas compris.
Puis au moins, il lui parlait.
Voilà, c'est ça, oui, c'est ça.
Et est-ce que vous avez des souvenirs de l'occupation?
Bon, oui, j'ai des souvenirs que le 1er janvier, ils sont venus voir mon grand-père, on fêtait le 1er janvier avec des gaufres. C'était les gaufres, j'allais glaner. Et on passait dans un moulin à café, on passait les grains et on arrivait à faire des gaufres. Et un officier allemand est arrivé, monsieur le maire, nous voulons les clés de l'église. Mon grand-père dit, non, 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 vous n'aurez pas les clés de l'église. Si, 1er janvier, sonnez les cloches, vous ne sonnerez pas les cloches, vous n'aurez pas les clés. Ah, monsieur le maire, si vous ne donnez pas les clés, caput qu'ils faisaient. Alors mon grand-père, il dit, vous aurez ma tête, vous serez capoute, mais vous n'aurez pas les clés. Alors ils sont partis, ils ont cassé la porte de l'église, hein, ils ont été sonner les cloches quand même.
Oui. C'est une tradition probablement allemande.
Peut-être, peut-être, oui. C'était la fête pour eux. Oui, l'occupation, oui, on faisait très attention, on ne parlait pas. Oui.
Et vous disiez qu'il y avait un peu de collaboration dans le village quand même.
Ben, c'est pas mon papa, c'est pas qu'il collaborait, mais c'est une. Il avait fait son service militaire à Cologne, hein,
oui.
Après la guerre de 14.
Oui.
Je pense que c'était là.
Non.
Le bleu.
Ah oui, Katechine après-midi, c'est plus léger. Et papa admirait ce peuple. Il admirait leur discipline. Papa était musicien, bien qu'il n'ait pas été à l'école. C'était un bon violoniste, un organiste. Il m'a appris à jouer de l'orgue. Et il admirait cette culture allemande, hein, qu'on n'avait pas, nous, en France. Oui, c'était plutôt ça qu'il n'aurait pas... Non, je pense qu'il n'aurait peut-être pas dénoncé André.
Non, mais je ne pensais pas à votre papa. Je pensais...
Oui, mais dans le village, non. Ben non, il y avait la famille de Saint-Exupéry, on jouait avec les enfants de Saint-Exupéry, on était reçus au château et ben ils étaient, attention, il y avait Antoine, hein, on a dû du mal de retrouver Antoine, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, même avec le cousin, c'était le cousin Germain Antoine qui habitait le château à côté de chez nous. Mais on a été élevés avec les enfants, on était un petit peu considérés comme les manants, mais ça fait rien, on s'amusait bien avec eux. Les jours d'anniversaire, ils étaient 6 enfants aussi. Le jour d'anniversaire des enfants, on participait aux fêtes et Antoine venait avec son avion et nous jetait des friandises.
Ça c'est formidable.
Oui. Mais il était pas pour les Allemands. Hein.
Il n'était pas pour les Allemands.
Non.
Mais
j'en ai pas beaucoup.
Il savait que c'était l'anniversaire, alors il venait.
Il achetait des bonbons, des gâteaux, oui.
Voilà. Il était plus âgé, donc Antoine.
Antoine était un peu plus âgé que son cousin, oui, mais pas beaucoup, hein. Ouais. Ah oui, on les a pas tout à fait perdus de vue, mais presque. Ils sont presque tous morts, les enfants de Saint-Exupéry. Oui.
Et vous n'avez pas...
Non, on n'a pas...
gardé de contact avec
non,
sa femme.
Non, il y a Anne avec... elle est décédée aussi. Oui. Alors, maman était une femme... Elle s'était mariée avec un manant, mais elle était très bourgeoise de nature et elle aimait beaucoup, du moment qu'il y avait une particule, et les docteurs, et le chanoine machin, et trucs, ça nous agaçait beaucoup d'ailleurs. Et à l'enterrement de la douairière de Saint-Exupéry, moi j'étais ici, elle était en maison de retraite, elle avait un ami, un voisin qui s'occupait beaucoup d'elle, mais qui l'aimait comme elle était. Il a écrit l'histoire de l'enterrement de la douairière. On y voyait, parce que maman s'appelait de Mongeau. Et il paraît que dans le temps, avant la Révolution, il y avait une particule. Ah, oui. Moi, j'ai jamais cherché ça, mais enfin bon. Alors, on y voyait la comtesse de Mongeau, Marie-Louise, accompagnée de son fils. Enfin, il raconte ça, comme si c'était...
Alors, le gratin de l'aristocratie
voilà,
locale.
Qui a épousé le roturier Jean Touvenin. Rassurez-vous, enfant Touvenin, vous avez du sang bleu dans les veines. Elle avait été vexée. Ça m'a j'ai photocopié cette histoire. Ah oui, maman, c'était... Enfin, nous c'était des amis. Je me rappelle, Anne de Saint-Exupéry, c'était l'aînée. Je la vois toujours venir chez nous. Mon frère travaillait à la petite Syrie. Il y avait une panne, il avait les mains pleines de cambouis. Elle avait des gants blancs. Et elle lui donne une poignée de main.
Ah.
Charles, vous êtes un saligo. Oh, il dit, mademoiselle, je ne donne la main aux jeunes filles que quand elles ont des gants blancs et que moi j'ai les mains noires. Ouais. Oh, si, c'était des bons amis. Hein. Oui.
Et eux, ils étaient restés ils n'avaient pas quitté le village, en fait.
Non, ils sont restés. Le village s'appelait Orquevaux.
Orquevaux.
Un très joli village à 4 km d'Imberville, oui. À Orquevaux.
H-O-R.
Non, O-R-Q-U-E-V-E-A-U-X.
Faut savoir comme ça.
Et il y avait une église magnifique dans ce pays-là. J'ai des photos que papa a prises. Papa était un bon photographe. C'est lui qui m'a fait celle-ci. On était tous les deux sur la Notre-Dame de Paris.
Ah oui.
Il a pris cette photo-là. Il avait des photos de cette église. Elle était dans la montagne. Or, il l'a pris sur toutes les coutures. Et moi, j'allais jouer de l'orgue dans leur patelin, là, à la messe. Et la dernière fois que j'y suis allée, l'orgue tombe en poussière, elle n'est pas entretenue, elle n'est pas... C'était les prédécesseurs des Exupéry qui l'avaient fait construire. Il s'appelait le comte de Vandel. Et le comte de Vandel était le neveu de Diderot.
Ah, on remonte...
Mais Diderot était contre l'Église.
Oui.
Voilà, il a fait des écrits plus ou moins. Et ce comte de Vandel... Il a fait construire, il a vendu son château, il a fait construire cette église. La porte du tabernacle, c'était de l'or massif, avec des rubis dedans, en réparation des fautes de Diderot. Et il est parti, il a quitté le village, il a vendu le château des Exupéry, et papa l'a retrouvé en clochard sur une bouche de métro.
C'est pas vrai.
Il l'a reconnu. Oui, papa l'a reconnu là. Ah oui, c'est une drôle d'histoire. Hein. Ouais. Mais on ne voit plus les Saint-Exupéry. Quand j'étais au village, j'étais demandé de leurs nouvelles aux voisins. Le château a été vendu d'abord à des Hollandais, ensuite à des Américains.
Ah oui.
Mais pour revenir à la période de la guerre, est-ce que vous avez, genre, vous n'avez pas peut-être pris part à des initiatives de la résistance?
Pas du tout.
C'était quand même un univers qui vous côtoyait.
Ah ben bien sûr, parce que l'histoire qu'André raconte, le camion qui explosait.
Oui.
Si, il y avait notre institutrice du village, était collabo aussi. Elle avait vu, elle avait dit, oh, moi j'étais paniquée parce que je savais qu'André était parti avec le copain. Donc je savais que c'était lui qu'on était en train de mitrailler à 2 kilomètres de là. Et elle avait dit, ces deux gars qui sont partis à 5h du matin, ils sont partis en vélo, elle les avait vus partir.
Elle l'avait dit aux Allemands?
Mais non, je crois pas quand même, elle n'avait pas pu le dire aux Allemands. Mais moi je savais, et depuis notre maison, on voyait les projectiles, on voyait le camion exploser. Donc je savais que mon André était là, mais je savais qu'il faisait ça.
Hein? Je me disais, vous étiez déjà fiancée,
mais vous n'avez jamais
fiancée.
Vous n'avez jamais transporté des messages?
Jamais. Non, je me demandais ce qui se passait. Mes frères, il n'y avait pas de place à la maison. Maman avait loué à un voisin une petite maison en face où il y avait 2 chambres. Mes frères couchaient côté rue et moi côté jardin. Il y avait une porte vitrée, j'avais un rideau, et une nuit, c'est comme ça que j'ai appris qu'André devait faire partie de la résistance, mon frère aussi. J'ai entrouvert le rideau, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe à cette heure-ci? Et il y avait sur la table des mitraillettes, des gamins qui étaient autour, quoi. Et comme ça, oh, j'ai dit, si jamais papa voit ça.
Parce que c'était votre frère jumeau.
Oui.
Il s'appelait Jacques.
Charles.
Et il les faisait en cachette de votre père.
Ben oui, papa ne savait pas. Hein. Non. Je ne sais pas s'il l'a su. Il a su les conneries de mon père.
Pas dans les détails.
Non. Les gens disaient, ce petit Parisien-là, hein, je n'étais pas trop aimé, c'était le Parisien. Mais quand il était au village, c'était le Parisien. Oui, c'est curieux. Hein. C'est comme ça. Non, moi j'ai pas participé à rien militaire, rien du tout. Je disais rien, je ne disais pas ce que je voyais ni ce que je savais, c'est tout.
Et il y avait, alors, dans votre village à Albertville, est-ce qu'il y avait des Allemands qui étaient cantonnés?
Ah ben oui, ben ils allaient à la messe. Je me souviens qu'il y avait un chantre. Il y avait un chant, on l'entendait dans la montagne. Et les Allemands, il y avait un petit café qui n'existe plus, qui était après notre maison. Entre l'église et la maison, les Allemands, au pas de loi, Kortiel sous Sacratissimo Migueles. Oui, il y en avait, bah oui, il y en avait qui venaient à la messe. Et notre vieux curé, on avait un curé qui aimait les Allemands aussi. Et dans un sermon, le voilà qui dit « Tous les belligérants, mes frères, je les mets dans le même sac, mais le plus odieux, c'est l'anglais !» Maman s'est levée, elle est partie. La famille Saint-Exupéry est partie.
Ah, voilà.
Et il est enterré juste en face de Gaulle à Colombey.
Allez, les prêtres. Donc, les familles qui se sont levées, au fond, c'était des résistances civiles.
En face, il y en a l'année.
Oh oui, juste en face.
Mais il y a 2 mètres qui les sont.
Il est à Colombey, d'ailleurs.
Qui sépare les deux tombes.
le hasard.
Puisque c'est dans la même zone, moi, comme je suis italienne, les tombeaux de Gaulle, il est dans votre...
Dans Haute-Marne. Colombey, les deux églises, c'est en Haute-Marne.
Ah oui,
c'est près
de Chaumont, surtout. Ah, okay. Hein. D'ailleurs, Chaumont n'est pas connu, mais si on parle de Colombey, les deux églises, tout le monde connaît Colombey.
Ah oui, donc lui aussi, de Gaulle, est originaire de votre région.
Voilà, oui. Et son château, la Boissière, c'est à Colombey.
De Gaulle, il est né dans le Nord.
Oui, à Lille.
Oui, mais ils ont habité, ben moi je connaissais bien Madame de Gaulle, elle faisait des courses chez
Mont-Royal, Tantivonne, oui,
on l'appelait Tantivonne.
Bien sûr, et est-ce que vous aviez de la sympathie?
Oui, on parlait avec elle dans les magasins, oui. Oh, toute simple, oui, toute belle.
La maman de De Gaulle.
La femme de De Gaulle.
Yvonne De Gaulle,
oui. Mais ils se sont mariés avant ou après la guerre?
Avant,
parce que... Donc lui, il était parti et sa femme était restée...
Elle est restée au château.
Et elle ne courait pas des risques. Je veux dire, les Allemands savaient quand même que c'était la femme de De Gaulle.
Elle a été à Londres, à cette époque-là.
Donc, ça devait être dangereux.
Il avait réussi à faire venir sa femme.
Oui.
Ah, un sacré bonheur, lui. On allait à la messe à Colombie avec mes frères, je me souviens, il y avait une plaque ici, ce recueil, monsieur, madame de Gaulle, mon frère avait mis ici, trois gamins sans merde, parce qu'il ne voit rien derrière le dos de De Gaulle.
Il avait écrit ça.
Oui.
Vous aviez un frère qui avait un sacré caractère.
Oui, ça alors.
C'est une carte, mais ça c'est dommage, vous voyez, la route, le château. Chaumont.
Oui, d'accord. Alors, Chaumont, par rapport à Neuchâtel, est au sud ou...
Neuchâtel est au nord-est.
Au nord-est,
c'est
d'accord.
Dans les Vosges, Neuchâtel.
C'est une région que je ne connais pas du tout, que je n'ai jamais la frontière, visité. Mais ça sera l'occasion.
Et alors, tous les pays dont je vous ai parlé...
Je vous emmène. J'ai plus de femme ici, j'ai encore la femme de mon frère jumeau qui habite Chaumont. Elle est bien dégradée, elle est bien...
Votre frère,
il est décédé, mon frère, en 2000. Et mon plus jeune frère, Pierre, est décédé l'année dernière.
Celui qui était parti
en de l'eau. Que je l'aurais écrit.
D-E-L-O-T.
En de l'eau.
Alors.
La bataille d'Andelot, elle est connue.
Oui, mais je pense qu'on a un témoignage sur lequel on a travaillé de quelqu'un qui a déjà participé à la bataille d'Andelot. C'est pour ça que j'attends impatiemment pour récupérer le témoignage.
Je vois Hecto le comte, vous m'avez
dit. Hecto le comte, c'est là qu'était M. Châtel, le patron de la résistance Châtel.
C'est tout près. C'était pas loin.
Moi, j'allais au château, mais pas pour la résistance. J'allais cueillir des petits pois.
Là où il y avait des 60 Polonais, puisque faire 60 prisonniers, c'est un exploit. Hein.
Vous aviez cueilli
ça un coup blessé.
Oui, parce que M. Châtel faisait beaucoup de culture,
Je pose la question. Et au moment de la guerre,
j'allais à bicyclette depuis chez nous. J'allais cueillir des petits pois chez Châtel. Je savais qu'il était de la résistance, hein, mais enfin, je ne me mêlais pas du tout des problèmes.
Alors, vous alliez cueillir des petits pois, vous alliez aider à la cueillette des petits pois?
Non, je cueillais pour moi, puis je faisais des courses.
Ah, d'accord. Et vous, il laissait cette possibilité?
Oui. Puis il nous connaissait un petit peu à cause de... Parce que Anne de Saint-Exupéry, l'aînée, a été fiancée avec l'aînée des Châtel.
D'accord.
Et je la vois encore, j'ai été la conduire au train avec son fiancé en vélo, et je voulais l'aider. Elle avait le sac de son fiancé sur le dos, lui était chargé aussi, et je voulais l'aider. Elle m'a dit non, elle voulait pas lâcher ce qui appartenait à son fiancé. Il s'en allait, lui. Comment qu'il est parti, le fils Châtel? Pourquoi il est parti? Il a été tué à la guerre.
La guerre d'Indochine.
Ah, voilà, il s'en allait en Indochine. Il a été tué. Oui. Après, il s'est marié avec le comte de Braquilange. C'était un Breton.
L'Orville, c'est là où étaient les Américains.
L'Orville, je note.
C'est au nord de cette route qui va du château. Mais c'est pas loin tout ça. On faisait ça à pied.
Et Neuchâtel, attendez que je regarde l'orthographe.
Neuf. C'est une grande, finalement.
Un château qui serait neuf.
Finalement, c'est une question. Vous n'avez jamais tué personne, malgré tout vos mitrailleuses.
Je me dis, j'ai eu la chance de tuer personne.
Ça, c'est vrai.
Vous avez réussi à faire 60 prisonniers sans, comme on dit,
sans faire couler du sang.
Sans faire couler du sang.
Non, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est un bon Dieu qui habite aussi en Vietnam. C'est des professeurs qui est en retraite maintenant. Et il est pourchasseur pour deux sous. Il ne veut pas faire du mal aux animaux. Et il va, ses copains lui disent, tu viens à la chasse avec nous, t'auras au moins pour la promenade. Oh, ben, elle dit, oui, oui, pour marcher, oui, d'accord. Il va ça, puis les chasseurs lui disent, tu te mets là, en bordure du bois, tu te mets là, dans le fossé, puis tu verras peut-être du gibier sortir. Il se met dans son trou, là, il faisait un talus. Et puis les autres partent à la chasse. Tout d'un coup, il y a un cerf qui déboule tout à l'heure avec ses grands. Il saute, il va.
Il a vu
notre neveu se lève de son trou. Le cerf a eu peur. Et il s'est pris, en sautant par-dessus, il s'est pris les cornes dans les branches.
Les branches.
Ça lui a tordu la tête. Ah ça, et le cerf est tombé raide mort à ses pieds. Et il n'avait pas de fusil.
Il a quand même réussi.
Oui, il s'est ramené avec son cerf. C'était la légende.
Ah oui, finalement, il a tué le cerf. Il a fait tellement belle. Il s'est auto-tué.
Alors ça les amusait, les autres chasseurs, ils ont bien ri, ils ont dit, eh ben la picolie qui ne veut pas chasser, il se ramène avec un cerf mort.
Ils en ont quand même bien profité, les uns et les autres.
Alors vous ne connaissez pas nos pays du tout.
Non, pas du tout, mais j'ai déjà lu ces récits attentivement, un récit que je suis sûre, ça se passe autour de l'eau.
Ben,
je vais les revoir ce soir. Non, mais c'est bien, puisque j'ai un récit maintenant sur la poche de Dunkerque, un récit sur la bataille d'Adévauge. Et donc, petit à petit, on va constituer notre
groupement d'ordo.
Voilà.
Constitution.
Mais là, peut-être on peut.
Mais là, ça va bien. Bien.
En tout cas, vraiment, vous avez eu des expériences passionnantes. Finalement, on découvre Saint-Exupéry, l'abbé Pierre,
Rommel.
Et en même temps, vous disiez que vous n'aviez tué personne, mais vous avez vu des gens mourir sous vos yeux. À un âge où on est adolescent et où on est sûrement impressionné.
Mon premier, c'est le soldat en face de moi qui l'avait tranquillement son âge.
Oui.
C'est en fin de compte, c'est lui qui m'a sauvée, parce que si j'avais été dans l'eau, j'étais tuée avec lui. Hein. Mais c'était quoi, 2 mètres hein. J'avais qu'à sauter par-dessus ma planche à laver. Et puis... Oh, c'est ça qui a motivé maman à ce qu'on parte.
Oui, bien sûr.
Mais on était peut-être bête de partir.
On
ne
peut pas tourner, on ne peut pas insister, il n'y a rien à faire.
Mais vous ne pouvez pas savoir que vous serez.
On
séparé.
Pas là, non, on ne savait pas.
Parce que qu'est-ce qu'elle doit avoir souffert votre mère en pensant à ça?
Pas du tout.
Ça a dû arriver à bien des familles.
Oui, des gens qui sont. Mais si vous êtes curieux, on a été recherchés. La veille de notre mariage, mon grand-père était toujours maire. Il a été 35 ans maire du village.
C'est lui qui vous a marié?
Oui.
Non, il n'avait pas le droit. À l'époque, non, il n'a pas eu le droit de vous marier.
Mais il n'a pas voulu, il était très légaliste.
Le maire n'avait pas le droit de marier sa petite fille.
C'est dommage, ça. Alors que moi, je me suis mariée, c'est mon frère mère qui m'a mariée. Je trouve que ça donne un sens à la cérémonie.
Et alors, la veille de notre mariage, grand-père a reçu une dépêche de la préfecture de Clermont-Ferrand demandant si les enfants Tournain étaient retrouvés. La veille, c'est donc 6 ans après. Alors, il y a eu de la recherche quand même.
Vous avez été démobilisé aussi en 1966, monsieur, donc les choses ont mis du temps à se régulariser quand même.
Les papiers dans la maison.
Vous aussi, du lait?
Non, madame, merci beaucoup. Je prends
c'est bien comme ça, madame. Non, j'en cherchais, moi j'en ai aussi. Hein. Mais c'est les Anglais, ils mettent le lait avant le thé.
Ah.
Je ne suis pas anglaise.
Enfin, quelle histoire, même toute la gestion de la ferme, puisque...
Ça, nos petits-enfants disent, on n'aurait jamais pu, mais moi j'avais quand même une petite expérience, j'y allais, je traillais les vaches quand même, quand j'y allais, je les aidais.
Ah oui,
j'aidais, oui.
Vous connaissiez les lieux, les animaux.
Voilà, c'est ça. Mais évidemment, sans électricité, le plus dur pour moi, c'était de donner à boire aux moutons. Et ils avaient une pompe électrique, mais il n'y avait pas d'électricité. Alors je m'amusais à mettre les bidons, les grands bidons là, avec des cordes jusque dans la citerne et à remonter ça, ça. Oh oui, oui, ça. Genre, on ne pesait pas le bras quand ils sont rentrés.
On avait pris du sucre.
Et vous, au fond, vous avez sauvé les bétails, oui, puisque s'il n'y avait personne qui s'occupait des animaux, les animaux auraient été ou volés ou...
Oui.
Les vaches, il faut les traire, autrement
oui,
il y a la maladie qui paie.
Oui, puis elles auraient des mammites.
Mais oui, c'est ça.
Ben
oui.
Ça.
Mais c'est, je pense que des jeunes comme ça, ils ont eu le sens du devoir. Il y avait une
oui,
situation,
oui,
il fallait faire face.
À l'époque, on avait, tout le monde avait le sens du devoir.
Et en même temps, la guerre, c'était tellement exceptionnel que les gens vont assumer des responsabilités
ça,
qu'ils ne prendraient jamais. Voilà.
C'est vrai. C'est
puisque
vrai.
Si on n'est pas confronté
oui.
à des situations de l'extrême, on ne va non plus faire face.
Oui, oui, bien sûr.
Mmh.
Et puis, peut-être aussi que Madame Clerval dit qu'elle faisait déjà des choses dans sa famille, etc.
Oui, oui.
Nous, nos jeunes adolescents...
On n'a même pas le temps de les reprendre.
Voilà.
On leur demande
de
rien.
On leur demande de rien, donc ils ne savent pas. Mais... C'est vrai que...
C'était vraiment une autre époque. Mais mes oncles et tantes ont toujours dit à mes parents, vos enfants ont sauvé la ferme. Ils ont été conscients que... Ah oui, oui.
Merci, monsieur. Je ne vais pas prendre de sucre. Merci.
Ouais. On a eu beaucoup de chance de pouvoir arriver à cette ferme-là. Parce
oui.
que, qu'est-ce qu'on serait devenus sur la ferme?
Là,
vous
avez
aussi tous les deux. Qu'est-ce qu'on serait devenus?
Merci beaucoup, monsieur.
Ah ben
bien
oui.
sûr. Bien sûr. Merci pour le thé.
J'espère qu'il est bon, c'est mon mari qui l'a fait. Hein.
Il est très bon.
Excellent.
Je fais du boulot.
Ah oui, quelle époque quand même. Un jour, un de mes fils, mon fils aîné, il avait peut-être 9 ans, 10 ans. Il avait du mal à l'école. Et puis il me dit, oh, vous avez eu de la chance, vous avez connu la guerre. Oh, ça, dire ça, t'entendre dire ça. Après, j'ai compris, il le disait autrement. Et parce que ça nous avait motivés.
Oui.
Tout était à refaire.
Oui,
il fallait vivre, il fallait grandir, il fallait... C'est ça, hein, pour notre jeunesse, à nous, on a
des raisons.
Voilà.
Ouais, oui.
Ah,
oui,
les objectifs
oui.
que là, ça,
oui.
Où,
oui.
Vous
aviez des
repères et puis rien.
Oui, oui, oui.
Moi, j'aime mieux avoir vécu l'époque que j'ai vécu.
Enfin,
que
je n'ai jamais souhaité que mes enfants connaissent ça. Hein.
Une vie où ils ne voient pas ce que ce sera.
Bien sûr, bien sûr. Est-ce que ça a été facile de reprendre la vie, une vie normale après?
Oui, pour moi, ça n'a
oui.
rien changé. Hein.
Oui.
Puis, de toute façon, il fallait travailler.
Oui. Bon. Ce qui a été difficile, c'est quand même notre première année de mariage.
Ah ben oui, là. Là.
Parce que
ben oui, mais là, c'est pas à cause de la guerre. Là, ça.
On ne trouvait rien, même avec de l'argent.
Oui.
On n'avait rien. Le pays où je travaillais avait été bombardé, tout était rasé.
Bien sûr.
Ah oui, là, cette première année de mariage, oh oui,
on n'avait pas de maison.
Alors, vous, comment étiez-vous logé?
Mon patron, c'était... Je créais des variétés de blé, nouvelles, et trappes, tout ça. Et mon patron vendait des semences. Et il avait une maison... Il y avait un hangar pour mettre les graines. Dans le couloir, il y avait un...
Oui, un petit passe, un petit
recoin, qui n'avait pas de fenêtre.
Il y avait un petit placard.
Il y avait un placard, mais il n'y avait pas de fenêtre.
Il n'y avait pas de fenêtre.
On n'avait pas de lit.
Il nous avait laissé
un divan avec une place.
Un divan, mais qui ne s'ouvrait pas, donc il n'y avait qu'une place. Bon, ça a duré... J'ai attendu mon premier bébé, là. Je me disais, qu'est-ce que je vais faire de cet enfant-là? Et il y avait un petit vieux qui était sur un trottoir au soleil. Et puis, il me disait des choses. Quand je passais vers lui, je disais bonjour. Il me disait des choses, mais je ne comprenais pas. Une espèce de patois du Nord. Puis un jour, il me fait comme ça. Je vais vers lui, il me dit, t'es pas d'ici? T'es pas d'ici? Je dis, non, tu ne pouvais pas le dire plus tôt. Ça fait 2 mois, 3 mois que je te dis que ma maison, quand je vais casser ma pipe, elle est pour toi.
Dites donc.
Il était locataire. Il avait dit à son patron qu'il y vivrait pas longtemps et que s'il mourait, il y avait deux jeunes qui étaient là, qui avaient peur. Et il est mort 15 jours avant la naissance de Thérèse.
Oui, tout ça.
Heureusement que les gens ne le savaient pas.
La providence, hein.
Ils auraient dit qu'on lui avait donné un bouillon.
Et après, on logeait chez lui après, parce qu'il avait perdu sa bonne, son employé.
Le patron.
Madeleine, oui. Le patron. Donc, Madeleine.
J'ai servi d'employé, j'ai gardé le petit garçon.
Et en échange, on avait une chambre.
On a pu coucher dans un lit normal. Oui. Mais ça, c'était tout le monde subissait ça, quoi. Si on avait eu des parents, mais ni d'un côté ni de l'autre, ils ne voulaient pas du mariage. Hein. C'est ça qui. Autrement, bon, il y avait une paire de chaussures pour deux. Parce que.
Bon, on avait la même pointure.
On l'astiquait. Moi, j'avais des sabots, mais je n'osais pas trop sortir avec parce que ça faisait du bruit. Un petit peu.
Donc, c'est M. Clerval qui portait les chaussures quand il devait sortir.
Ben, il avait récupéré des chaussures. Il avait quand même.
Vous avez les gants. C'est les chaussures d'allemand.
Ben oui, bien sûr.
Mais elles étaient beaucoup.
Si vous voulez, merci madame. Pourquoi pas? Merci beaucoup, madame. Je ne vous en prie pas.
Non, non, non. T'en veux pas, toi? Je sais que t'en veux plus. T'avais calculé ou pas? L'eau, t'avais calculé pour l'eau?
Oui. C'est pas bien, c'est juste.
Bon, c'est un peu juste, quoi.
Mais moi, je l'avais pris par gourmandise. Hein. C'était très bon.
C'est juste. Ah, hein. Oui. Oh, oui, mais ça, après guerre, ça a été dur aussi.
Merci, monsieur. Madame, je...
Merci.
Merci bien. Monsieur.
Merci. Ah, oui. On a retrouvé papa 4 ans après, hein, quand même. Il ne voulait pas. Ils n'aimaient pas, hein. Ils sont devenus les meilleurs copains du monde.
Ah oui, parce que j'ai eu besoin de lui, parce que je faisais des croisements entre les plantes, et il y avait des croisements que je n'arrivais pas à faire, parce que pour prendre des étamines, enfin du pollen,
oui.
Une plante à le mettre sur l'autre, tout ça. Et j'avais besoin d'insectes. Et les abeilles, ben, il fallait déjà qu'elles prennent que le pollen que je voulais, non
oui,
pas
oui. Ben oui, bien sûr.
J'arrivais pas à le faire. Je prenais bien des abeilles, je mettais des cales, elles ne travaillaient pas. Il me dit non, il faut qu'il y ait la reine avec. Donc il a
papa était apiculteur aussi,
il avait. Il a fait des petites truchettes, qu'il y avait, parce qu'il y a une façon pour faire des abeilles, et, donc il met des reines. Donc il a pris des reines avec leur colonie, mais des petites truchettes. J'avais fait des cases en grillage à garde-manger autour des pieds de luzerne que je voulais croiser pour qu'aucun insecte n'aille dessus. Et j'ai fait la même chose sur des pieds de trèfle et j'ai mis mes abeilles avec un couloir comme pour les fauves pour qu'elles aillent sur là où était le trèfle. Parce que le trèfle et la luzerne, ça se croise pas ensemble. Donc elles travaillaient sur le trèfle. Elles étaient débarrassées après de tout autre pollen. Et je les amenais sur là où était ma luzerne, mais je mettais sur la planche d'envol le pollen de la luzerne que je voulais utiliser comme
marée. D'accord, oui, bien
les
sûr.
Les abeilles, avant de s'envoler, elles se barbouillaient avec leurs antennes, elles prenaient le pollen, elles faisaient la fécondation, que moi, je n'arrivais pas à faire, parce que c'est dur d'aller dans une... La fleur est toute petite.
Bien sûr.
Donc, vous avez réussi à mettre ensemble la luzerne et les trèfles.
Non, non.
Deux variétés de luzerne.
Deux variétés de luzerne, oui.
Et qu'est-ce que ça donne? Ça donnait une variété.
Parce que les luzernes, ça n'avait pas été travaillé. Quand elles perdaient leurs feuilles, d'abord, il fallait faner. Puis, ou bien elles se couchaient. Elles ne tenaient pas debout. Donc, il fallait des tiges fines. Rigide, des feuilles petites et abondantes.
Est-ce que vous en voulez encore un peu du testicore?
Et ces deux espèces de luzernes avaient des caractéristiques
complémentaires.
Oui, c'était oui, j'avais choisi les pieds comme mâles, puis comme femelles, et puis ce que je voulais.
Et c'est comme ça que vous vous êtes associé votre beau-père et que.
Oui,
ils se sont réconciliés comme ça.
Pour les abeilles, voilà. Parce que je ne savais pas comment vivaient les abeilles.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc il a été plus indulgent vis-à-vis de son gendre.
Oui.
Et puis peut-être que.
Il a vu que je m'intéressais
Ah oui, à ce qu'il faisait, lui.
Voilà, et bien sûr. Oui. Et puis qu'il pouvait vous rendre service,
voilà, oui,
vous apprendre quelque chose.
Oui. Et comme son destin à l'origine devait être celui d'être vétérinaire, oui, il n'avait pas voulu, avec les abeilles, quelque part. Ouais.
C'est dommage qu'il n'a pas été vétérinaire, il aurait aimé ça.
Tout mais ça, mais... Les gens ici, parce que j'ai fait...
Dans la rue,
j'étais plus vétérinaire.
Oui, il a fait tout. Oui, mais enfin, il a certainement moins gagné sa vie que s'il avait été vétérinaire.
Les vétérinaires d'ici ne m'aimaient pas.
Mais non.
Parce que vous en saviez un peu trop sur leur métier.
Oui, puisque déjà dans la ferme du comte de Paris, il y avait les brebis, il y avait les vaches, il y avait
tout. Oui. Oh, mais puis mon oncle adorait, mon oncle aimait tellement, je le vois toujours quand on était gamin, la façon on allait se promener dans les champs le dimanche, évidemment, et la façon dont il prenait une poignée de terre, ah, et tu vois, ça nourrit le monde. Il avait une adoration de son métier.
Ah, bien sûr. Il voulait que la terre soit souple,
ah, oui.
Pas de la terre qui reste en main.
Ouais, ça, il aimait.
Hein. Donc vous avez été à bonne école aussi.
Oh, oui.
Est-ce que vos enfants ont suivi votre chemin?
Pas du tout, hein. Pas du tout. Oh non, qu'est-ce qu'il y a?
Une qui est infirmière.
Une qui est infirmière en brousse au Sénégal, elle est bonne sœur là-bas.
Ah bon? Oui. Où au Sénégal?
À Sokone, au sud de Dakar.
Vous connaissez le Sénégal?
Oui, j'y ai vécu Sokone. Toute mon enfance.
C'est pas vrai.
À Sokone, vous connaissez Sokone?
Entre Dakar et la Gambie.
Oui, d'accord. Oui.
C'est à peu près
alors, aussi, l'infirmière en brousse.
Ah oui, d'accord. Vers la Casamance, alors.
Oui, mais la Gambie est au nord de la Casamance.
Oui, parce que la Gambie.
Oui, elle partage
le Sénégal.
Puisque lui, il allait faire aussi l'ingénieur agronome.
Quand j'étais en retraite, oui. Oui. Le lendemain de ma retraite, je suis parti.
Au Sénégal, justement.
Au Sénégal, après au Mali.
Puis après au Mali.
Pour donner des conseils aux agriculteurs.
Oui, mais il n'y a pas été assez directif, on faisait.
Oui. C'est pour ça que je vois que vous avez des masques et des chapeaux. J'ai remarqué que
c'est un grand amour. L'Afrique, pour lui, c'est un grand amour.
C'est une décoration. C'est le meilleur ouvrier du Mali.
Ah oui. C'est une décoration, voilà.
Une décoration.
Oui.
J'appelle ça la lion.
C'est pas très discret.
Préfet.
La gazelle, là, cette
Oui, ils appellent ça la lion.